Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à toutes.
Vous êtes sur Radio Campus 106.6 avec nous jusqu'à 19h. Et on vous souhaite d'ailleurs une bonne année qui sera, j'espère, meilleure que l'année précédente. Au sommaire de cette émission, on va parler un peu de nourriture et ce qu'on pourrait appeler de la bouffe, hein, pour être honnête. On va parcourir un peu des petites actualités. Comme on a tous un peu fait le plein lors des fêtes, bon, on va continuer encore.
Pourtant, c'est peut-être une période où justement, comme on s'est un peu trop gavé, maintenant, il faut manger un peu moins, quoi.
Malheureusement, il y a quelques actualités qui font qu'on va faire un petit dossier spécial. On peut commencer tout de suite par l'agenda, et puis ça parle un peu de nourriture, hein, puisqu'ici on va parler un peu de yaourt. C'est avec un concert qui a eu lieu lors du Nouvel An. On avait parlé notamment de Kiss, hein, qui était parti à Dubaï pour animer un concert exceptionnel dans un hôtel où tout le monde pouvait assister depuis sa chambre. Un spectacle hors du commun. Et ce n'est pas le seul artiste, hein, qui s'est lancé dans cette aventure.
Attends, t'as dit le mot artiste là. tu sais de qui on va parler.
Non, mais on peut les appeler artistes, attends.
Kiss, mais je parle de la personne dont on va parler.
Ah, pardon, excusez-moi.
C'est Aya Nakamura qui fait un show à Dubaï pour terminer cette année 2020, voilà.
Hein, pour l'achever.
Mais c'est pour pas avoir de regret, en fait, de basculer en 2021. Du coup, je pense que c'est une bonne chose.
Donc, le concert s'est passé exactement dans le même hôtel que Kiss.
Mais sur la plage, elle était en coulisses, tu vois.
Voilà, sur une belle plage artificielle. Il y avait également des DJ. Et on pouvait, bien sûr, depuis sa chambre, manger un repas exceptionnel pour les plus fortunés qui sont partis à Dubaï. Est-ce que ça gâche pas un peu la performance de Kiss, du coup?
Ou ça la met en valeur, c'est...
On va dire ça. Ça exporte la chanson française.
Eux, ils ont tout compris. Ils ont eu une année 2020 de merde. Ils ont dit, bon, voilà, finir avec tout ce qu'il faut, comme ça, c'est fini. On peut commencer sur de bonnes bases en 2021. Je sais pas comment je le prendrai pour elle, mais...
Elle va prendre son chèque. Elle va être contente.
C'est ce que j'ai dit.
Elle est pas là pour la culture ou le plaisir.
Il y a des gens qui payent, qui sont prêts à payer pour ça, et donc c'est qu'il y a quand même des gens qui écoutent et ça se vend, quoi. Donc ça leur retrouve peut-être ça dommage en même temps, bon, si ça fait marcher le commerce.
Contrairement à la performance de Jean-Michel Jarre, on n'a pas pu suivre cet événement en VR. Quel dommage. Allez, je vous propose d'entamer tout de suite ce dossier sur la malbouffe, sur le fast-food. Et vous l'avez peut-être vu, puisque ça a quand même résonné un peu dans les journaux, c'est KFC qui a lancé sa console de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut parler d'une concurrence face à la Xbox ou face à la PlayStation ? Peut-être pas. Mais c'est l'une des fonctionnalités de la console qui est assez surprenante. Puisque, si on y réfléchit bien, la Xbox et la PlayStation ont quand même tendance à un peu surchauffer.
C'était déjà le cas avec la génération précédente. Hein. Je me rappelle, je crois que c'est la PlayStation 3. En plus, elle ressemblait à une espèce de barbecue. Et elle a quand même chauffé beaucoup. On l'appelait le barbecue.
Et puis, on connaît tout ça pour les rétro-gamers. Sur les PC, certains faisaient cuire carrément des œufs sur le processeur. Et ben, on continue un peu dans cette lignée. Et la KFC console propose un compartiment qui vous permet de tenir au chaud vos aliments.
Je voulais te le dire, tenir au frais les bières, mais non, pas de chance.
Ça, c'est déjà ça. T'as des trucs que tu te branches en USB pour garder ton café chaud, mais aussi des trucs pour garder ta bière ou ton coca au froid.
Alors, la console a été intelligemment nommée la KFC console.
La KF console, voilà.
Voilà, donc si vous achetez votre bucket de poulet, on parlait d'ailleurs la semaine dernière de Bucket Head qui avait un pot de KFC sur la tête, on ne pouvait pas se douter que voilà, il y allait avoir une KF console juste après.
Ils ont fait l'annonce il y a quelques jours et bah, tout le monde a dit bah, c'est une blague, ils sortent sur la sortie des consoles pour faire de la pub, et apparemment il y a eu tellement de buzz qu'on se demande s'ils se sont pas dit, on va peut-être faire une vraie console. Je pense qu'au départ c'était parti comme une blague.
Et quelles sont les nouveautés? Surtout les exclusivités, c'est ça qui est intéressant.
Ce qui est bizarre, c'est qu'ils appellent ça une console, mais enfin, on a les caractéristiques. Il y a un processeur Intel encore neuf. Il y a des, je sais pas combien de gigas. Ils promettent de la 4K à 240 images par seconde.
Ouais, alors
Mais est-ce que c'est un PC? Est-ce que c'est une version spéciale d'une des consoles déjà sorties, genre la Xbox? C'est pas évident à savoir.
Ils ont pas précisé sur quel standing de jeu, sur quel catalogue de jeu ils allaient se
poser. Quelle est la plateforme, oui.
Quels sont les éditeurs qui ont signé avec eux pour adapter le jeu sur leur console? Enfin, pour l'instant, c'est on sort un objet, mais vous allez peut-être rien en faire avec.
C'est une fake news, en fait.
Pas forcément.
Alors, justement, au début, ça a été produit un peu. Tout le monde s'est dit, tiens, c'est une fake news. Et non, puisque Cooler Master... Alors, c'est assez marrant d'avoir quelque chose qui réchauffe la bouffe et de travailler avec Cooler Master, qui est plutôt connu pour refroidir, justement, les équipements informatiques. Alors, c'est un gros coup de pub, hein, bien sûr. Mais il y a une chaîne, il y a un Twitter, hein, d'ailleurs, KFC Gaming. On va d'ailleurs parcourir ensemble les différents produits que KFC a déjà produit et réalisé pour le jeu vidéo. Mais oui, hein, comme tu le disais, c'est un peu un PC, je pense. Ça ne sera pas une grosse concurrence face à la PS5 et la Xbox Series
X. Il faut voir hein, la puissance. En tout cas, pour jouer à Cyberpunk 2077, même un petit PC marche mieux qu'une grosse console, pour l'instant. Et
si ça peut vous faire du 4K à combien d'images? 240
images 240
par seconde,
images par seconde. Pour tes nouvelles télés, ça peut être une console un petit peu pas virtuelle, mais où tu peux faire tourner des plateformes de style Android, etc., pour faire tourner des jeux pas que justement qui sont sur d'autres domaines.
Et ça sera compatible avec la réalité virtuelle.
Tu as déjà des consoles. Steam avait sorti des consoles, on appelle ça des consoles, oui, dessus, c'était basé sur un Linux, et dessus, il y avait Steam qui tournait, et avec une bonne carte graphique, tu pouvais jouer à tous les jeux, la plupart des jeux qui sont disponibles sur Steam. Donc c'est peut-être une console dans le même genre. On appelle ça console parce que c'est un boîtier où il y aura peut-être un clavier, mais il y aura des manettes, c'est vraiment dédié au jeu.
Alors, on parle de manettes. Il y a quelques mois, KFC avait quand même sorti une manette affreuse, j'ai envie de dire, hein, avec un design complètement...
dépassé.
Dégueulasse. Mais qui avait quand même plu à certaines personnes. Et puis c'est un peu comme les baskets Lidl, hein, c'est tellement hors du commun, ça devient limite tendance.
C'est un peu ça, voilà. Le but, de toute façon, c'est de faire parler, quoi. C'est vraiment de faire le buzz sur les réseaux sociaux, de faire des partenariats avec des jeux vidéo, des magasins de jeux, etc. Pour faire des échanges entre marques, c'est vraiment que ça, quoi. Ça coûte pas cher et puis ça fait parler, hein. La preuve.
Alors, avec KFC Gaming, on avait notamment eu l'annonce d'un smartphone KFC. Alors, de souvenir, c'était en collaboration avec UA. Et ils avaient produit une Gamerbox 2.0. Alors, c'était une boîte sur laquelle on avait de chaque côté de la boîte un bout de manette. Donc, à gauche, les contrôleurs, à droite, les boutons.
Ça fait vraiment fake news, quoi. Enfin, c'est terrible quand tu vois les photos. Oui.
Il y a la Switch. Ça fait un peu le principe de la Switch, ça, non?
Oui, c'est ça. Alors, tu mettais ton smartphone au-dessus de la boîte. Sur les côtés, tu avais la manette. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour dire...
Et tu mettais ton sandwich, ton repas dans la boîte, c'est ça.
Après, en même temps, si tu peux y jouer en attendant de, je sais pas, ton burger, ton machin, ton truc,
c'est vraiment que ça.
Ça se défend, quoi. Pourquoi pas?
Il y avait également la boîte qui permettait, une fois que vous aviez terminé votre repas, vous démontiez la boîte et dedans, vous pouviez construire un drone avec le magnifique logo du KFC au-dessus.
On recycle, c'est bien. C'est écologique.
Je suis pas sûr. Écoute,
ça apprend aux enfants à bricoler. Voilà, c'est tout. Hein.
Bah, si vous pouvez plus leur apprendre à aller... bien manger plutôt qu'aller au KFC. Mais bon, c'est une
histoire. Ouais. Le gamin, il demande à ses parents de lui ramener des trucs KFC, il jette la bouffe à la poubelle puis joue avec la boîte.
C'est ça, un peu comme les cadeaux de Noël où on joue avec l'emballage et puis on oublie le cadeau. Et qui d'entre vous a déjà été mangé au KFC? Parce qu'on fait de la pub pour KFC, moi j'ai mis les pieds personnellement.
Pour l'instant, moi non plus, je tiens. On fait le KFC ton, c'est ça? Le KFC guédon.
Alors, quels sont les résultats vu que tu lances? Qui a survécu au Wamageddon?
Ah non, moi j'ai tenu 2 semaines, moi.
Eh non, j'ai tenu jusqu'au 24.
J'ai tout tenu. Tino Guédon, Wamageddon, Marie Guédon.
Quelle puissance. Mais tu n'es pas sorti de chez toi pendant un mois, c'est ça?
Ah si, j'ai même pris le métro plusieurs fois, j'étais dans les galeries marchandes, etc. Et à croire que j'avais la grâce sur moi.
Mais tu t'as mis tes boules de caisse en permanence, c'est pas possible.
Je pense, ouais. J'ai dû apprendre la langue des signes et tout pour suivre 3 semaines du mois de décembre.
Donc Reynald le grand gagnant, et moi je suppose que je suis le grand perdant, puisque je suis un des seuls à avoir perdu le Tino Guédon avec le petit Papa Noël.
Ouais.
C'est triste, c'est triste.
Alors, je suis même étonné de ne pas avoir perdu Tino Guédon, parce que normalement tu n'as que ça dans les galeries marchandes, le métro, etc.
Exactement.
Alors on revient à KFC. KFC a quand même étudié cette année la possibilité d'imprimer ses nuggets avec des imprimantes 3D. Alors ça a l'air assez spécial, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés, et on risque d'en parler encore dans les sujets à venir, des sociétés telles que 3D Bioprint qui proposent d'imprimer des choses un peu biologiques. Et là, on parle de poulet en synthétique.
C'est-à-dire que tu prends une imprimante 3D classique qui imprime avec des trucs de plastique, mais tu remplaces ça par de la matière mangeable. Bizarre.
C'est ça. Alors, il y a deux possibilités, hein, puisqu'ils ne sont pas beaucoup étalés à ce sujet. Je pense que ça risque de leur faire un peu de pub négative, de savoir qu'ils impriment leur poulet avec des imprimantes. Et ça rappelle, bien sûr, un grand film français, hein, Les loups la cuisse.
Les loups la cuisse, magnifique. Mais c'est ça, tu imagines ce film, je sais pas quel âge il a peut-être, on va dire, 60 ans, et c'était visionnaire. On se moquait à l'époque, mais on n'est pas loin de ces solutions-là, des usines qui sortent de la nourriture.
C'est ça. On voit aujourd'hui qu'on développe des fermes en vertical, hein, qui apparemment seront plus écologiques que les fermes en horizontal. Et ça commence à faire un peu peur.
Ouais, parce que ça prend moins de place, et puis en plus, tu peux gérer. Et puis en plus, tu rajoutes ça, que les fermes sont gérées non plus par des humains, mais par des robots, gérés par de l'intelligence artificielle et des drones, bien sûr. En fait, tu vas. Et qui calculent au millimètre près la quantité d'eau qu'il faut, etc., en fonction du temps. Ah oui, tu vas accroître la productivité de 200% éventuellement, mais. Bon, à quel prix ? On va manger des fruits et des légumes sans valeur.
Oui, après, je pense que pour beaucoup de gens, ça ne changera pas grand-chose.
C'est ça. Est-ce qu'on s'inquiète déjà à l'heure actuelle de ce qu'il y a dans notre assiette ? Alors, on achète des produits bio, mais mine de rien, personne ne sait exactement comment ça a été fait et est-ce que les règles ont bien été respectées. Si KFC, aujourd'hui, décide de faire comme ça des impressions de nuggets, ils vont quand même réduire leur empreinte carbone, ce qui serait bon pour la planète, mais mine de rien, ce qui fait un peu peur pour l'espèce humaine, quoi.
Pour la planète, oui, et après pour le goût, bon.
Là, si on n'a jamais été, moi je peux pas juger du goût.
Si Jean-Pierre Coff est encore vivant, enfin il serait encore mort.
Il est en train de faire le tourbillon dans son cercueil.
Après, alors c'est peut-être aussi un moyen pour eux de pouvoir exporter ça dans d'autres pays. Enfin, tu vois. Pouvoir faire des usines plus facilement.
Ça, c'est l'excuse bidon, parce que depuis le temps qu'il y a la faim dans le monde, on a les moyens de les régler. Là, tout le monde, personne s'en occupe, en fait.
Et là, j'ai vu dernièrement, des chercheurs essayent, avec du CO2, de faire du carburant pour les avions. Alors, si on arrive jusque-là, je pense que c'est bingo.
Bah, mine de rien, l'industrie, c'est vrai qu'on critique toujours les avions comme étant le moyen de transport le plus polluant. L'industrie aéronautique, c'est l'une des industries qui fait le plus de progrès en matière d'énergie verte, etc. Enfin, ils viennent de loin, c'est vrai, mais c'est eux qui ont le plus gros projet. Bon, c'est sûr que là, avec le virus, ils ont un petit coup de frein sur leur projet, j'imagine, mais bon.
Ah, bah oui, là, ils ont bien diminué leur empreinte carbone, c'est sûr.
Quoique non, parce qu'ils étaient obligés, pour certaines compagnies, de faire des voyages à blanc. Pour regarder leur couloir aérien. Donc, tu voyais les avions passer et tu savais qu'il n'y avait personne dedans.
Sans parler des vols qui avaient été organisés pour des passagers qui étaient en manque d'avion. Ils aimaient bien prendre l'avion ou frimer. Donc, il y avait des circuits, par exemple, en Australie, qui partaient de Sydney, qui volaient quelques heures en l'air et qui revenaient à Sydney. Donc, c'était des vols qui ne servaient à rien. Tu payais pour avoir une place pour revenir chez toi.
Et il y en a eu plusieurs de ça. C'est complètement hallucinant.
Oui. Après, même si les avions, parfois, ne volaient pas, il fallait effectivement faire tourner les moteurs, même en restant au sol. Hein. Et parce que des machines de ce type, quand elles ne tournent pas, bah, au bout de quelques semaines, très vite...
Ouais, parce qu'ils ne pouvaient même pas les démonter ou les stocker, etc. Parce qu'on ne savait pas quand... Ça pouvait reprendre à n'importe quel moment, mais bon...
C'est un peu comme les voitures. Hein. Si vous laissez votre voiture un an dans le garage, voilà, c'est assez mauvais pour...
Je crois que tu n'as même pas besoin d'attendre un an. Il y a quelques personnes qui ont eu des surprises, quoi, qui, après un mois de confinement, n'ont pas réussi à redémarrer leur voiture ou qui ont dû changer des pièces parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que...
Vous avez laissé la lumière allumée à l'intérieur.
Non, même pas, mais bon...
Donc voilà, on revient à KFC avec ses impressions de nuggets qui sont complètement incroyables. Mais on se demande, est-ce que ça sera peut-être non pas du poulet, mais des produits un peu vegan, puisqu'ils se sont associés récemment avec Beyond Meat, alors je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, ça, qui fait des produits exclusivement à base de plantes.
Oui, des steaks à base de soja ou de champignons, ce genre de choses. Mais il y a eu quelques années, on en avait parlé dans l'émission, je crois, les appréhendements à pizza. Bon, c'était rigolo, mais bon, ils avaient parlé de ça, ils s'amusaient à faire des appréhendements à pizza, tu avais la pâte, et puis l'imprimante déposait les ingrédients que tu avais choisis. Mais d'ailleurs, il existe des distributeurs à pizza ou à ce genre de choses, quoi, qui composent ta pizza à partir des éléments. C'est pas des pizzas réchauffées, forcément des pizzas réchauffées. Tu as juste la pâte, et la machine met les ingrédients et cuit en quelques minutes.
On a bien étalé sur ce sujet KFC, rien qu'à partir de la KF console. On va s'écouter un peu de musique avec un challenge back-to-back, forcément sur le thème de la malbouffe, du fast-food.
Ou enfin, il n'y a pas que du fast-food.
Pas forcément bio. Voilà, ça te va ?
Oui, ça me va.
Non, parce que je veux pas gâcher ton sujet sur la merguez, Pierre-Yves.
Oui, tout à fait.
Qu'on écoutera en fin d'émission.
Merci, François.
Alors, je propose de commencer ce thème de back-to-back. Pour moi, c'était évident. Si on parle de malbouffe ou de bouffe, j'ai choisi une chanson qui s'appelle « Cheeseburger in Paradise » de Jimmy Buffett, un artiste très peu connu, mais qui a fait de belles chansons. Voilà, c'était Jimmy Buffett avec Cheeseburger in Paradise. Alors, ça fait un peu Jimmy Buffet hein, à la française, donc c'est encore dans la bouffe. Et on peut noter qu'il a participé en tant qu'acteur dans Jurassic World.
Hey. Ah oui, ah, parce qu'il est encore en vie, c'est moi. Il devait être en concert, en septembre à la Cigale à Paris, mais c'était annulé, bien sûr, à cause du Covid-19. Et mais apparemment, il a encore des dates en septembre prochain, en 2021.
Voilà, donc restez à l'écoute si vous voulez en découvrir plus. Hein. Il reviendra sûrement en France. Et je pense que les gens ont cru que c'était un buffet gratuit.
Il tourne avec une comédie musicale qui s'appelle Margaritaville. On reste dans le fait.
Magnifique. Allez, on continue dans ces petites actualités insolites. On parle de fast-food et on a retrouvé un fast-food antique, attention, qui a été retrouvé au milieu des cendres. Mais ça a été découvert assez récemment, ça. Hein. C'est à peine, ça date de quoi, 2019 ?
La semaine dernière ? Ah non, c'était, j'en ai entendu parler la semaine dernière, mais...
Voilà, il a été découvert. Là, ils ont fini un peu les fouilles. Alors ici, on parle bien sûr de la ville de Pompéi. Dans les fouilles, ils ont trouvé un étalage avec des dessins de poulets, de canards, avec au-dessus des récipients, ce qui indiquerait qu'à l'époque, on avait déjà un peu des fast-food comme ça, où les gens venaient...
De la street food, une baraque à frites.
Après, je pense qu'ils avaient aussi certainement, genre un peu sur une espèce de pain, tu mettais les différents aliments que tu mangeais dessus, quoi, donc que ça ne ressemble pas effectivement à une sorte de burger pour l'époque.
Ça date de l'année 79.
Ah bon, donc, après Jésus-Christ, oui. C'est la date de l'éruption du Vésuve.
Donc c'est incroyable que 1940 ans après la disparition, on retrouve ces éléments de très bonne qualité, puisque si on regarde les peintures, elles sont quand même en très bon état. Alors peut-être que c'est le fait qu'il y a eu justement autant de cendres qui a peut-être préservé une partie de cet édifice.
Ça a figé sur place tous ces... Bah oui, les premières images qu'on voyait de Pompéi, c'était les gens qui étaient figés comme des statues en pleine course en train de s'enfuir, qui étaient encore debout. Ça a toujours été impressionnant, les images de Pompéi.
Et du fait que tout a été figé subitement, on récupère des choses qu'on n'a pas trouvées ailleurs, mine de rien. Ici, on récupère des restes, on récupère des grands pots de terre, des restes de chèvres, de porcs, de poissons, d'escargots, des fèves concassées. Donc, on a un peu des recettes de cuisine un peu antiques qui ont été découvertes.
Ah, tu pourrais presque réouvrir un fast-food sur place en reprenant les recettes de l'époque.
J'attends de voir dans le prochain Astérix un fast-food, en fait.
Alors, est-ce qu'il y aura un prochain Astérix, d'ailleurs ?
Donc, les anciens sont vendus. Donc, tant que ça se vend, tant qu'il y a des gens pour acheter, ça va se vendre.
Et le dernier était plutôt pas mal, donc...
Allez, on enchaîne cette fois-ci avec l'intelligence artificielle qui s'immiscie dans le milieu de la restauration. Et notamment, on a pu voir ça avec un robot qui s'appelle Flippy. Vous vous en souvenez de ce robot qui a été développé, alors ça, il y a de ça plusieurs années, hein, ça fait bien 3-4 ans. Alors au début, il maîtrisait assez peu d'aliments et avait peu de fonctionnalités, mais apparemment, depuis plusieurs années, il y a un apprentissage qui en...
Comme un vrai employé de fast-food, quoi. Au début, il ne sait rien faire, et puis petit à petit...
Et puis après, il change de boulot.
Exactement. Il en a marre, sauf que le robot, il s'en fout, lui.
Et il s'en va.
Alors, c'est un robot qui coûte quand même 30 000. Alors ici, on parle en dollars. Alors, il est surnommé le Bot Burger, puisqu'à la base, il avait été programmé pour faire des burgers et des frites.
Oui, bah en fait, c'est ça. Il travaille comme un humain classique dans un truc de fast-food. Il reçoit les commandes de la salle, et puis il regarde ce qu'il faut, et puis il rassemble les éléments. Il fait tout automatiquement, il s'est entraîné, il a répété les gestes. Il faut dire que quand tu vois les employés de fast-food travailler, tu as l'impression de voir des robots déjà à la base. Hein. Donc, tant qu'à faire, autant mettre des vrais robots à la place qui font bien leur travail et qui réclament pas, qui sont pas obligés d'aller aux toilettes, de faire des pauses, etc. Et puis, au niveau de l'hygiène, surtout en ce moment, c'est impeccable, ça.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle plus que de robots ? Tout simplement puisqu'ils ont intégré maintenant un logiciel d'apprentissage automatique qui lui permet au fur et à mesure de localiser, identifier les objets qu'il a autour de lui grâce à ses capteurs thermiques qui lui permettent de vérifier les cuissons.
Tu veux dire que les employés classiques, pour l'instant, ils mettent leur langue dessus ou leur doigt pour savoir si ton steak
ouais,
est cuit,
c'est ça ?
Ils
mettent le doigt. Ton doigt est pas assez cramé.
Ouais, c'est ça, il s'adapte. Et puis, t'as pas... C'est vrai qu'un automate, lui, il fait les gestes basiquement sans vérifier qu'il y a quelque chose, sans vérifier les quantités ou quoi que ce soit. Tandis que là, il est... C'est beaucoup plus qu'un automate parce qu'il est capable de mesurer. Peut-être même qu'il est capable de passer les commandes quand il voit qu'il y a un élément qui en manque en fonction de ce que les gens commandent et de s'adapter. C'est là qu'est l'intelligence. Bientôt, il y aura... Parce que là, il y a toujours des employés autour de lui. qui travaille sans danger en plus, parce que justement, grâce à ces capteurs, il est aussi capable de voir s'il y a des humains qui s'approchent pour éviter les accidents et se mettre en pause, ou de manipuler les outils avec, avec prudence. Mais bientôt, peut-être qu'il n'y aura plus d'employés du tout dans la boîte, il n'y aura que des robots qui vont tout faire, même manger peut-être.
Alors, initialement, il faisait à peine des steaks qu'il retournait, maintenant il est capable de cuire plus de 19 aliments, tels que des ailes de poulet, des frites, des rondelles d'oignons. Il était immobile dans la cuisine. Maintenant, il est installé sur un rail, ce qui lui permet de naviguer un peu dans toute la cuisine.
C'est pas mal. Bah oui, du coup, il a accès à plus d'aliments comme ça. Donc
C'est ça, il n'y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui apporter les aliments, les poser, puis il va tout faire. Non, c'est vraiment...
Après, pour avoir déjà mangé dans une cuisine d'entreprise, mais en fait, à la fin, quand tu mets ton plateau devant la caisse, et la caisse reconnaît tout de suite les aliments que tu as dans ton assiette, et du coup, te facture en fonction... Enfin, c'est vrai que c'est déjà impressionnant, quoi.
Ouais, parce que là, c'est le robot qui prépare la nourriture, mais à tous les niveaux de l'entreprise, même dans d'autres entreprises, on voit l'exemple aussi dans les entreprises de stockage, dans les hangars, etc. Tout est c'est robotisé au maximum. Ça permet de diminuer les coûts, d'une part, mais aussi les risques d'accident et les erreurs d'emballage, je ne sais quoi.
Si ça peut choquer certaines personnes, il faut savoir que les fast-foods sont plus proches de la manutention que de la restauration.
Non, puis on voit bien, pour faire un fast-food, l'une des choses, c'est d'optimiser au maximum les gestes que tu vas faire, de diminuer leur nombre pour pouvoir avoir un rendement suffisant.
Jamais dans un fast-food, tu as le type qui demande au serveur, enfin déjà pas de serveur, appelez-moi le patron pour le féliciter. Enfin non, c'est des machines, quoi. Donc tu sais que tu manges de la bouffe faite par des machines humaines, c'est tout, quoi. Donc ça soit fait par une vraie machine.
Mais il y a un épisode de la dernière saison de X-Files, justement, où ils sont dans un restaurant complètement automatisé, restaurant japonais. Ça fait peur quand même, parce que là, effectivement, ils rentrent, ils choisissent, boum, un peu comme sur une tablette, ce qu'ils veulent manger. Il n'y a pas de serveur, c'est bizarre.
On avait parlé déjà de ça dans une émission précédente, il y a quelques mois déjà, où on avait parlé du robot serveur au Japon ou en Chine, je ne sais plus. Pour éviter justement les contacts clients au niveau du coronavirus.
Bah, c'est vrai que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, et avec le Covid et le confinement, un restaurant qui aurait ça pourrait presque rester ouvert et accueillir les clients séparément, servis par des robots, bouffe préparée par des robots, il n'y aurait qu'un risque.
Bah, je pense pas que c'est le personnel de cuisine qui est embêtant actuellement, ouais. C'est plus d'avoir les gens sales. Et ça, limite, il faudrait des clients robots, il faudrait quelqu'un qui donne à manger à des robots.
Qui vient chercher la nourriture qu'il apporte chez toi. Même les livreurs robots, tout robot. C'est l'avenir, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on y viendra peut-être.
Mais vu qu'on parle de robots, il y a Walmart qui avait acheté plus de 500 robots pour ses 4700 magasins, et ils ont décidé de rompre le contrat puisqu'ils se sont rendus compte qu'il manquait d'efficacité par rapport au prix qu'ils payaient pour avoir des robots qui réapprovisionnaient les chaînes.
Qui font de la mise en rayon, quoi. Ouais.
Voilà. Et il y avait aussi un impact par rapport à la vision des gens qui allaient dans le magasin. Avoir un robot qui remplit l'étagère à côté de vous, c'est pas forcément ce que les gens.
C'est pas forcément inquiétant, mais effectivement, le fait d'avoir un être humain à qui tu peux t'adresser, poser une question éventuellement, c'est toujours un côté positif, quoi. C'est psychologique, ouais. Mais ça fait partie du truc.
Puis surtout que les Walmart, c'est pas les supermarchés que nous on connaisse. Eux, c'est vraiment du stock, c'est des hangars énormes avec énormément de choses par rayon. Quand tu dois mettre 50 unités d'une marque et que ton rayon possède 50 marques, on va dire que le robot est plus à même de le faire plutôt que demander à un être humain de mettre 200 canettes de tel soda, puis après il va faire 200 canettes d'un autre soda, etc. Et il a encore 3 rayons à faire.
Il faut savoir que ce qu'on considère en France comme des magasins de basse, enfin tout ce qui est Lidl, Aldi, etc. Par rapport à Walmart, c'est du luxe presque.
Mais de toute façon, on sait très bien comment ça va se terminer, puisque dernièrement, je voyais comme Amazon allait livrer des produits bio. Donc on se dit que le marché risque d'être pris un jour ou l'autre par des livraisons telles que Amazon. Hein. Amazon, je pense, comme Google. N'a pas fini son expansion. Ils ont travaillé pendant des années à être déficitaires, justement pour, une fois qu'ils ont tué tous les petits marchés.
Pour prendre des places, ouais, pour se placer.
Et là, les restaurants, mine de rien, vont assez souffrir de la situation actuelle. Et je pense que ces grosses sociétés risquent de sauter sur le...
Oui, parce que les gens, avec le confinement, les gens s'habituent à des nouvelles manières de consommer par la livraison, la commande sur Internet, etc.
On n'aurait pas fait autant de réglementations pour les drones que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de gars en vélo Uber Eats, il y aurait peut-être des drones qui viennent déposer votre pâte directement devant votre porte.
Des robots à vélo.
Ou des robots à vélo, allez. Vendu. Alors, on va se réécouter un peu de musique. Qui veut se lancer? Pierre-Yves, tu restes à la fin, donc ça sera Reynald.
J'y ai cru.
Dans l'ordre. Ok. Bon, bah, en fait, comme toi, après le cheeseburger, il me restait que celui de base. Il s'agit du groupe ZZ Top, de leur album qui a été en 1989-90, qui est tout à fait dans l'air de ce qu'on discute, ce qui s'appelle le Recycler. Tout le programme des fast-food. Dedans, dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Burgerman. Par contre, je vous conseille en plus de regarder le clip, qui est excellent.
C'était ZZ Top avec Burger Man. Si ça vous donne pas envie de manger un petit burger, tout ça. Et préparé par un humain. Attention, hein, parce qu'en France, on a assez peu de robots qui font de la cuisine. Aux États-Unis, on parlait de faire des frites, de retourner des steaks pour préparer des burgers. Au Japon, on fait des noodles.
Et oui, c'est la bouffe presque, enfin pas dite traditionnelle, mais c'est la street food traditionnelle au Japon, ça. Même s'ils se sont fait envahir aussi par les burgers et les pizzas et compagnie, mais les ramen, les noodles au Japon, c'est culte, quoi. Ouais, et puis il y a même des distributeurs aussi, maintenant, des machines automatiques. Alors que pourtant, au Japon, ils sont stricts sur la nourriture, c'est souvent un art, hein, on le voit dans certains domaines.
Alors, c'est un art pour peut-être couper des sushis et des noodles, ça reste quoi, cuire des pâtes, hein.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment, dans tous les domaines, ils poussent à l'excellence. Mais bon.
Du Japon, c'est aussi des personnes qui sont extrêmement pressées, qui ne pensent forcément à travailler toute la journée. Ils ont très peu de temps pour eux. Donc, avoir quelque chose qui puisse le cuire très rapidement, c'est un distributeur, ça va être très bien pour eux.
Mais c'est vrai que d'un autre côté, ils aiment beaucoup là, tout ce qui est nourriture traditionnelle faite à la main, sans parler, avec des maîtres qui travaillent pendant des dizaines d'années pour perfectionner un seul geste. Mais aussi, tu trouves dans certains endroits des distributeurs pour absolument tout, des burgers en distributeurs. Il y a de tout, quoi. C'est impressionnant. Ils sont à tous les extrêmes.
En plus, leur distributeur, par exemple, si tu vas au Japon, tu vois un distributeur de la marque Coca-Cola, par exemple. Tu vas dire, bon, ok, je vais m'acheter un Coca-Cola, et tu vas pour t'acheter un soda, et tu te rends compte qu'il y a toute une rangée de bouteilles d'eau, toute une rangée de bouteilles de thé froid, t'as des jus d'orange, t'as plein de trucs, et t'as une bouteille Coca-Cola. Alors que chez nous, ça serait complètement Coca-Cola, et peut-être un truc eau et non sucré.
Mais c'est le prix des choses, c'est important. Rappelez-vous, on en avait parlé entre nous, mais on voulait en parler d'émission, ce resto de burger à Paris qui avait ouvert, resto qui s'appelait Mange vite et casse-toi. Déjà, c'était assez sympa. Et qui tenait des burgers de qualité, fait main sur place, etc., avec des bons produits, à partir de 2,50€. Et ils avaient fait le buzz, ils étaient en plein milieu de Paris, ils avaient fait le buzz, mais ils avaient fait tellement le buzz qu'en fait, ils avaient trop de succès. Et qu'il y a des gens, au début, donc ils avaient pas beaucoup de clients, puis chaque client faisait de la pub sur Instagram, Facebook et compagnie, ça ramenait de plus en plus de monde. Et à un moment, quand le patron du resto Mange vite et casse-toi ont vu qu'il y avait des gens qui attendaient 2 heures, qui faisaient la queue pendant 2 heures pour manger, pour commander leur burger, ils ont arrêté leur truc en disant on reviendra plus tard quand on aura soit plus de place, soit plus de gens, soit une meilleure organisation, parce que leur truc était vraiment excellent, et t'avais un super burger à 3€ qui était parfois bien meilleur qu'un burger à 30€ au resto 4 étoiles à côté. Donc faut surveiller, peut-être qu'ils reviendront un jour.
Je me souviens parce que quand ils ont fermé, c'était pile 2 jours avant que j'arrive sur Paris pour remonter suite à mes vacances d'été. Donc c'était en plein. On finissait le premier confinement et en même temps j'arrive sur Paris, ils parlaient on vient de sortir du confinement, il y a 2 heures d'attente, même si on sort les transats parce qu'il fait beau. C'est pas très bon par rapport au rapprochement des personnes et aux gestes barrières, donc on ferme et on va essayer de chercher quelque chose de plus grand.
En plus, c'était le hasard, mais on le savait pas, mais on était tous les deux sur Paris à ce moment-là, c'est pareil. Je me dis, tiens, je l'avais noté sur mes adresses, aller visiter entre deux, au moment où j'ai vérifié, fermé, définitivement,
et
tant pis.
Et le prix de la soupe était à combien?
Oui, c'était des trolls, ils avaient toute une tarification. Même les frites étaient à 1€, c'était un bouquet de soupe. La soupe était à 100€, le bol de soupe. c'était vraiment pour rire, quoi.
Je me demande s'ils préparaient de la soupe au cas où quelqu'un l'a commandé.
Au pire, ils réchauffaient une soupe vite fait, quoi.
C'est pour ça qu'elle coûtait aussi cher, quoi, du coup.
Si vous n'aimez pas les robots qui préparent la nourriture pour vous, et que vous n'aimez peut-être simplement pas qu'on prépare la nourriture pour vous, il y a des restaurants au Japon, hein, on va rester dans la culture nippone, avec The Yakinuku Camp. C'est un restaurant où vous allez cuisiner vous-même, tout simplement. L'avantage, c'est quoi? Puisque vous allez me dire, autant rester chez soi. Non, parce que là, vous n'allez pas faire la vaisselle. Attention. Et vous avez tous les éléments, parce qu'au Japon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la place d'avoir une grande cuisine.
C'est un des soucis au Japon, effectivement.
Et là, vous allez avoir votre petit grill personnalisé sur votre table, où vous allez pouvoir faire soit une petite fondue, soit faire cuire des petites parts de viande. Alors, la viande là-bas est assez rare, mais lorsqu'il y en a, généralement, vous avez des morceaux de qualité. On peut en parler avec la viande Wagyu ou même la viande de Kobe, qui est d'une qualité exceptionnelle. Et là-bas, vous commandez votre viande et vous démerdez tout seul.
Il y avait déjà des restaurants comme ça, c'est ça, où tu avais des grilles et compagnie. Enfin, en Corée aussi, ça se fait beaucoup. Tu arrives,
tu choisis toutes tes grilles.
En France aussi, voilà. Où tu fabriques toi-même. Ou éventuellement, il y a tous les restaurants, ce qu'on appelle les restaurants de wok, où tu choisis tous les aliments, puis tu as quelqu'un, c'est un cuisinier, qui te prépare, qui te fait cuire tes aliments et qui te les donne après dans ton assiette. Mais là, ça va encore plus loin, oui. Est-ce que tu fais ton dessert toi-même ou genre, je ne sais pas.
T'as pas un cuistot qui peut te donner des cours aussi, parce que ça existe.
Ah, je suis sûr que j'espère que oui.
Ouais, ils vont tellement plus loin dans le concept que bientôt tu auras le restaurant où c'est quelqu'un qui va le manger pour toi et le digérer pour toi. Et tu vas continuer à payer, par contre.
Ça pourrait être sympa que de l'apéro où tu fais ton propre cocktail, tu brasses ta bière, je ne sais pas, ça peut aller loin, quoi.
Ouais. Je veux dire, en France, je ne vois pas comment ça peut marcher, parce que quand en France on aime bien se plaindre vers le cuistot quand c'est pas bon. Là, si c'est toi qui as cuisiné, c'est mort, quoi. Tu peux rien dire. Donc,
Voilà, même si la qualité de la nourriture est pas bonne, ils diront bah non, c'est parce que tu l'as mal cuite.
Ben voilà.
Ouais. Mais après, ça se si c'est un resto de raclette ou de fondue où t'es à table autour et tu partages quelque chose avec les gens avec qui tu manges. Mais sinon, en France, t'es tellement habitué.
Ça pourrait être sympa, ça marcherait sur le buzz. Ça marcherait sur le buzz, il faut voir le prix. Si t'as des bons produits, effectivement, si t'imagines un chef renommé ou même un chef d'une émission de télé-réalité, quelqu'un d'un peu connu qui fait ça, et si lui il est dans la pièce et il vient te conseiller, il vient t'expliquer et tout, rien que pour ça, et après ça peut marcher, mais c'est vraiment de la communication quoi, si c'est des bons produits.
On peut rester encore au Japon et cette fois-ci pour une news un peu what the fuck.
Oh, ça faisait longtemps.
Il y a des spas, attention, qui vous proposent de vous baigner non pas dans de l'eau. Mais...
Dans la bière ?
Ah, pas loin, c'est vrai, pourquoi pas. Non, ça existe dans déjà. Dans le vin rouge.
Ah, Gérard Depardieu sort de ce corps.
Oh là là.
Donc, on avait déjà un bar à Londres qui proposait une piscine avec des boules géantes. Ici, on est dans une piscine d'un tout autre genre. C'est du vin rouge. C'est assez incroyable. Alors, il paraît que le vin rouge a des vertus anti-âge. Hein ?
Ouais, quand tu le bois.
Ça dépend.
Les quantités. Alors,
puisqu'apparemment il y aurait du resveratrol, un antioxydant qui stimule les protéines. Et les Japonais, bah, dès qu'il y a des bienfaits, hein, vous en doutez, hein, on va tirer ça à l'extrême. Alors, est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous baigner dans
ça
du vin rouge ?
Ça dépend du vin. Si c'est du Beaujolais, non, ça va aller. Je vais passer mon tour.
De toute façon, enfin, le vin, c'est forcément un vin de mauvaise qualité parce que tu n'as pas gâché du bon vin pour ça. Quoi.
En fait, c'est super exclusif, justement, parce que pour éviter de changer le vin trop souvent, c'est vraiment assez limité. Chaque visiteur ne peut pas y venir plus de 12 fois par an. Donc, ils essaient de limiter un peu la clientèle, de faire tourner, quoi. C'est tellement ça de succès.
Ah, quand même.
Alors, attention, c'est pas la seule piscine disponible dans cet établissement de spa. Ah, c'est le Unison Spa Resort, d'ailleurs, qui se trouve dans le bourg d'Akone, à l'est du Japon. Vous avez également, pour ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de se baigner dans le vin rouge, peuvent se baigner dans le saké, dans le thé local, ou encore du café.
Un bain de café le lendemain d'une cuite. Tu repars directement
en fait, tu changes le vin rouge le lendemain quand ça n'était pas trop bien, c'est bain de café, et après quand vraiment t'en peux plus, tu fais un petit thé local histoire de te rafraîchir un peu.
Il n'y a pas ça avec la bière en Belgique ou en Allemagne? C'est étonnant.
Ouais, si, il y a des spas à la bière déjà.
Alors, tu vas à la fête de l'Oktoberfest en Allemagne, tu risques plus de prendre des bains de vomi que
oui, venir sa bière. Après, par contre, quand tu sors d'un spa comme ça, tu dois sentir le vin, en fait. Enfin.
Forcément, peut-être, à mon avis, il doit être un peu dilué. Enfin, je sais pas.
Beaucoup, j'imagine.
Bien.
Après, comme c'est un spa, tu vas sûrement avoir des soins derrière, plusieurs douches, plusieurs types de douches. Hein. T'es pas forcément. Tu sors pas comme ça pour partir tout de suite dans la foulée.
À Dubaï, c'est des bains au champagne. Imagine, tu es dans ta baignoire remplie de champagne et tu assistes au concert de Aya Nakamura et puis tu as le feu d'artifice de Kiss à côté. Magnifique, c'est le rêve.
Tu peux être mort, noyé et bourré en même temps.
Allez, on va quitter un peu le Japon. On va partir un peu plus loin. On va partir à Singapour. Alors attention, ça risque d'être un sujet un peu délicat. Ici, on va parler de viande artificielle. La viande artificielle est maintenant autorisée à Singapour.
Bah, en fait, c'est tiré à partir de cellules animales qui sont reconstituées, mais ça ne vient pas de l'animal.
Oui, ils prennent pas un animal, ils prennent pas de la viande d'un animal. Ils prennent des cellules et ils clonent les cellules. C'est ça, ils font pousser de la viande pratiquement à base de cellules, pour simplifier, c'est presque ça.
Et ça devient une sorte d'élevage de cellules, comme nous on fera un élevage de poulets pour les abattre ensuite pour prendre leur viande.
Ça veut dire qu'un vegan il peut en manger ? Parce que les vegans, si j'ai pas de bêtises, ils aiment pas qu'on fasse du mal aux animaux. Mais là on leur fait pas de mal, on leur prélever des cellules. Donc tu ne tues pas d'animal pour faire de la viande.
Déjà quand tu prélèves un œuf, c'est pas bon, alors. Mais après, et pour le goût, comment ils font du coup ?
Bah, c'est de la vraie viande. Enfin, c'est de la viande, sauf qu'elle vient pas d'animaux. Est-ce qu'elle a été vivante ? Je sais même pas. Enfin, les cellules sont vivantes puisqu'elles se reproduisent, j'imagine.
Après, ça
c'est de la viande. Elle n'est pas synthétique, elle est synthétisée en fait. C'est ça, elle n'est pas.
Ah oui, oui.
On rentre dans un débat qui est un des plus gros et qui n'a jamais été résolu. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de reconstituer un animal ou un humain, par exemple.
Et on a fait du clonage déjà de brebis, enfin d'un peu tous les animaux, mais...
À mon avis, ce débat a déjà été fait une centaine de fois. Imaginons que vous avez besoin d'un rein ou d'un foie. Est-ce que s'il a été reconstitué...
S'il a été reconstitué à partir de tes cellules à toi, c'est presque... Ouais, il y a toujours eu, des, et pas qu'en science-fiction, des hypothèses, des gens qui voulaient se faire cloner pour avoir un double d'œuf dans un frigo pratiquement. Comme ça, effectivement, s'ils avaient besoin d'un rein, enfin d'un membre, n'importe quoi, eh ben, on allait le prélever. On ouvrait le frigo, on allait le prélever, puis on venait te le greffer.
Je ne suis pas sûr qu'en France, c'est autorisé, ça, par contre.
Pas encore.
Nulle part, c'est autorisé, hein, je te rassure.
C'est en Corée du Nord.
Ouais.
Mais Singapour fait des avancées à ce niveau-là, puisque...
C'est vrai que là, à qui ça fait mal? Si tu arrives à prouver que c'est pas mauvais, enfin, si c'est la même viande et que c'est pas nocif pour la santé, ouais, d'en consommer...
Sauf qu'à force de cloner tout ça, tu as quand même une dégénérescence des cellules, et donc, potentiellement, tu peux avoir, après quand tu manges, ça peut provoquer des cancers et autres, donc bon.
C'est des alternatives. C'est vrai qu'on n'aura plus besoin d'animaux, on aura un animal, c'est tout, puis on pourra faire disparaître toutes les races animal, on n'aura pas besoin.
Ouais, déjà, à apprendre déjà, à la viande.
Ouais, déjà, actuellement, on nourrit certains animaux avec des protéines animales. C'est ce qui a posé pas mal de problèmes. Il y a pas mal de maladies qui sont venues de là. Et même si on leur donne pas à manger d'animaux, il y a, alors je ne sais pas le chiffre, mais je vais dire un petit peu au hasard, 70% des champs cultivés en France servent à nourrir les animaux. C'est même pas pour nourrir les humains. Donc, effectivement, il y a un gros problème au niveau de la chaîne alimentaire, au niveau de la...
Alors, est-ce qui d'entre vous serait prêt, si je vous le dis, hein, si je vous marque sur le sachet, attention, cette viande a été reconstituée dans un laboratoire.
Enfin, au moins goûter, on est sûr que c'est pas nocif, au moins goûter pour voir la différence, quoi.
Et tout est nocif à l'heure d'aujourd'hui.
Juste pour goûter, ouais.
Moi, après, je pense qu'on verra pas la différence au niveau du goût, en fait.
Je pense pas.
Non, mais comme tu le sais, t'auras forcément un a priori sur le goût et tu
vas. Mais t'as même plus.
Ah, bah, toujours.
T'as peut-être plus de chances que ça ait été élevé jusqu'à terme que certains animaux, malheureusement.
Ça sera peut-être même plus sain, il y aura peut-être moins, ça sera peut-être plus contrôlé contre les maladies et compagnie. Mais... Après, si on te présente deux plats et on te dit pas lequel est le vrai et le faux, ça, est-ce que tu arriveras à faire la différence? C'est pas évident.
Alors, la société qui met ça en place s'appelle Eat Just. Rien à voir avec une livraison de nourriture à l'heure actuelle, mais le prix est beaucoup plus important que si vous achetez un poulet normal à l'heure actuelle.
Pour l'instant, oui.
Si vous êtes vegan, est-ce que vous seriez prêt à manger une viande constituée dans un laboratoire comme ça?
Est-ce que les vegans rejoignent les défenseurs des IVG ou disent dès la cellule, la personne est vivante?
Ouais, c'est une bonne...
C'est pas évident. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il souffre quand tu coupes le steak? C'est ça le truc.
Mais pour moi, un arbre, c'est vivant. Donc, déjà, manger de la salade, pour moi, c'est un peu.
Il ne fasse plus grand-chose, alors après. Ensuite, enfin, si ça permet de résoudre, après, c'est pareil, on parle de la faim dans le monde, si ça permet de résoudre aussi les problèmes de.
Ah, c'est pas faux.
Mais bon, je doute qu'il n'y ait pas d'effet sur le corps, humain, sur le long terme, en fait. C'est plus ça.
On en arrivera peut-être au film Soleil vert, si vous l'avez vu. Avec Charlton Heston, où je peux même pas dire la fin du film parce qu'on spoil, mais effectivement on est dans le futur et on les nourrit avec de la nourriture artificielle qu'on appelle Soleil Vert, et on découvre dans le film comment elle est faite cette nourriture. Je vais pas le dire, mais ça a rapport avec le sujet d'après.
Allez, on va s'écouter un peu de musique avant.
On peut dire en tout cas qu'elle est faite avec la pire des viandes.
Ou peut-être la meilleure.
Ou
allez.
Peut-être la meilleure.
Dominique, je te propose d'enchaîner avec ton choix de back-to-back pour s'écouter un peu de
musique. Oui, parce qu'on vient de s'enfiler deux burgers et avec quoi on mange des burgers? Des frites, bien sûr. Qui chante mieux les frites que Valérie Lemercier?
Ah oui.
Non, c'était sur son album Chante de 1996. Une magnifique chanson qui s'appelle Goûte mes frites.
Tu arrives, tu as pleuré, c'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, mes frites. T'étais si drôle, t'en souviens-tu, avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type, viens, goûte mes frites.
C'était Valérie Lemercier avec Goûte mes frites. Alors, elles étaient bonnes, Dominique?
Parfait.
Sur c'est le... bon, je peux remettre le casque. C'est fini.
Je tiens à faire remarquer, sur le même album, il y a une chanson qui s'appelle « Mon oreille pleure ». Ça irait bien à Yana Kamura, ça.
Allez, on enchaîne. On parlait de viande artificielle. Et on va pousser le bouchon un peu plus loin. Hein, puisque on peut faire de la viande de poulet. Mais on peut aussi faire tout type de viande. Et là, attention, oreille sensible s'éloigner du poste, on va parler d'un steak assez particulier qu'on appelle le Ouloboros steak.
C'est le kit de viande humaine à cultiver soi-même. C'est très pratique. On parlait tout à l'heure d'un restaurant au Japon où tu viens, tu fais la cuisine et tu viens au restaurant. Là, tu n'as même pas besoin d'ingrédients. On va te prélever une cellule. Avec cette cellule, on va faire un steak que tu vas pouvoir cuisiner et manger. C'est pratique.
Alors, ils prélèvent tes cellules ou pas? Ou c'est des cellules que...
Ils prélèvent, ils utilisent des cellules basées sur du sang de donneurs. Donc, pourquoi pas proposer ton sang à toi?
Alors, attention, à la base, ils ont pris du sang de donneur qui était périmé.
Il ne pouvait pas être utilisé pour des dons du sang, ce genre de choses. C'est vraiment à titre expérimental.
Voilà, c'est un peu comme manger un yaourt après sa DLC. Hein.
Mais je suis pas trop, parce que là, avec tout ce qu'il y a eu comme histoire sur le sang en France depuis quelques années, rien qu'à savoir ça, je pense que plus personne n'a envie de goûter de la viande.
Effectivement, hein, c'est pour cultiver tes propres cellules.
Effectivement, alors... tu prélèves des cellules à l'intérieur de ta joue, comme tu fais un prélèvement pour un test ADN, etc. On les met dans un sérum de sang périmé, et 3 mois plus tard, tu obtiens un morceau de viande qui fait, ils disent, la taille d'un amuse-bouche, donc en gros une bouchée. Bon appétit.
C'est complètement hallucinant.
Juste avant de manger, là, du coup, ça coupe la faim quand même, ton truc. Hein.
Mais en plus, tu citais un petit peu pour rire tout à l'heure les loups de la cuisse, mais si vous avez vu, enfin, qui n'a pas vu les loups de la cuisse? À un moment, il y a Louis de Funès et Coluche qui sont enfermés dans l'usine, et le directeur de l'usine lui dit faites-les tomber dans la machine, on n'est pas à quelques steaks de plus ou de moins. Donc, déjà, c'était déjà le sujet du film, quoi.
Puis il se retrouve en pâte en croûte à un moment, hein, si je me souviens bien.
Exactement.
Ça avait l'air très appétissant. Les personnes qui ont développé ça vous rassurent. Hein. Ils nous disent que ce n'est pas du cannibalisme.
Non, mais ils considèrent que tu n'as personne pour pouvoir faire ça, en fait.
Mais c'est vrai qu'en fait, moi régulièrement, enfin, c'est un tic que j'ai aussi, des fois, il m'arrive, vous aussi, j'imagine, enfin, me ronger les ongles, je le fais pas, mais me ronger, enfin, manger l'intérieur des joues, quoi, même te ronger les ongles, etc. Mais est-ce que c'est du cannibalisme, du coup? Si tu te manges toi-même.
Ouais, y en a qui se mangent la peau des doigts, etc.
Tu ne blesses personne, en fait, pour pouvoir manger, quoi.
Mais du coup, le poulet synthétisé, ça a l'air soft, hein, comparé à l'ouroboros steak.
Et finalement, oui.
Mais on y viendra peut-être.
Parce que ça me fait un peu penser, par exemple, comme du compost, en fait. C'est, tu récupères tes déchets, tu mets tout dans ton compost, et puis boum, tu reviens un peu plus tard, et puis...
Et tu l'utilises au compost comme engrais pour faire pousser des légumes que tu vas manger, et compagnie. Voilà, c'est le fixe.
Voilà, ça a rien d'y penser, ça me... Je vous laisserai goûter d'abord, les gars.
Pareil.
Allez, pour terminer cette émission, Pierre-Yves, est-ce que tu veux clôturer avec ton choix de musique sur ce thème back-to-back ?
Je veux bien, mais tu en as déjà beaucoup dit tout à l'heure, tout en début d'émission, en fait. Je suis parti d'un groupe, bon, de mon enfance, un groupe, bon, je peux dire...
Mythique.
Ouais,
je les aurais bien vu faire un méga concert à Dubaï avec un feu d'artifice à $1 million. Là, j'y serais allé.
Quand
avec
on dit ça,
ouais, j'y serais allé aussi. Ouais.
Quand on dit ça, on s'engage pas sur la qualité de leur prestation.
En plus, les merguez à Dubaï. Et voilà.
Oui, mais des merguez de quoi?
Merguez au saumon.
Artificiel. Et effectivement, le nom de la chanson, c'est Merguez Party, et le groupe. Effectivement, le groupe, c'est Les Musclés. Bon, chanson de notre enfance. Alors, ils sont connus pour d'autres
chansons. De ton enfance.
Les Musclés.
Moi, c'était Licence 4.
Ah, bah oui, mais toi aussi, j'ai connu. Mais...
C'est un autre prestige, quand même.
Ça explique beaucoup de choses quand on te connaît, Dom.
C'est que la poisson. Donc, moi, je voulais qu'il y ait un peu à manger avec. Donc, voilà, la merguez partie des Musclés.
Et bon appétit.
Voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Ciao et bonne année.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Écoutez Radio Campus Lille.